C'est toujours un privilège d'être réunis dans la présence de Dieu. Puis merci Seigneur de nous donner cette liberté et qu'on puisse être là. Qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, ça n'a pas d'importance. C'est que Dieu est là, puis Dieu veut faire une œuvre en nous. Si on demeure chez nous, on pourrait, mais on va manquer ce que Dieu a donné ce matin. Puis je remercie Seigneur de nous donner à cœur d'être là, malgré la température, puis qu'on puisse être béni en sa présence. Merci Seigneur d'être là ce matin. Oui, ta présence nous fait du bien, de semaine en semaine, de mois en mois. Tu nous restaures, tu nous fortifies. Je te remercie, Seigneur, parce que toute la gloire te revient dans ces choses. Continue à communiquer dans nos vies tout ce qu'on a de besoin, Seigneur. Que ce soit la force de ton esprit ou les instructions de ta parole, qu'elles puissent être gravées en nous et qu'on puisse garder ta vision et qu'on persévère. Merci, Seigneur, de ce que tu offres encore. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Ce matin, je vais vous parler d'un message qui est spécial. C'est sûr qu'il y en a plusieurs qui vont être bénis, puis il y en a d'autres, ça va donner l'occasion à ceux qui n'ont pas encore fait ce choix-là, de pouvoir faire partie des élus de Dieu. Je vais vous parler ce matin du premier but de la création, de le seul but en réalité. C'était le centre de la pensée de Dieu. La raison d'être de la création de l'univers. C'est fort, hein? Ce message va nous donner des réponses, surtout à une question que quasiment tous les gens se sont posée vers l'adolescence. Ils appellent ça la question existentielle, sur la réponse « Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fais ici? » Parce que la majorité d'entre nous, on se l'est posé, comment ça se fait qu'on est dans un corps placé ici sur la planète, puis qu'il y a plein de monde qui vivent autour, puis qui courent à droite et à gauche, puis pourquoi je suis là? Puis il n'y a pas un qui se la pose. Tout le monde se l'est posé un jour ou l'autre. Sauf qu'il y en a quelque part qui se sont donné comme une réponse personnelle pour apaiser cette soif-là de connaître le pourquoi qu'on est, pourquoi qu'on est là, qu'on est un être vivant. Puis il y en a même qui en ont donné comme des explications scientifiques par des recherches ou d'une manière ou d'une autre pour nous donner une raison, une réponse pour camoufler la conscience. Il y en a d'autres qui donnent des explications religieuses en créant des religions. Puis ça donne comme des enlignements, des raisons pour nous dire pourquoi qu'on est là. Mais à quelque part, moi je crois qu'il n'y en a rien qu'une seule bonne réponse. Peu importe la multitude des réponses qu'on peut entendre à l'école, dans les cours scientifiques ou dans les cours de religion, peu importe dans quelle religion vous êtes, il y a une seule bonne réponse. J'ai lu un article dans l'actualité. C'est une revue qui a toutes sortes de sujets intéressants, mais il y en a un, entre autres, qui était sur un sujet qui est... Ça fait plusieurs années que des scientifiques étudient sur la question, puis sont arrivés à un résultat, puis la réponse est très étonnante. Ces scientifiques-là faisaient la recherche pour savoir s'il pouvait exister d'autres formes de vie dans l'univers. Puis là, ils envoient des sondes dans l'univers, comme des satellites, c'est des sondes, ils envoient ça propulsé à des vitesses qu'on n'est pas capable de, au maximum de notre technologie, puis c'est quasiment rendu au fond de notre système solaire, puis ils ont fait des études à droite et à gauche, la quantité de galaxies qui pourraient exister en même temps, ou la quantité d'étoiles qu'il y a dans l'univers. Savez-vous c'est quoi leur réponse, ce qui m'a étonné? Que la possibilité qu'il y ait d'autres formes de vie ailleurs est zéro. Ça, c'est dans une revue de ce monde. Savez-vous que la recette pour créer la vie, comme qu'on l'a sur cette terre, ça prend une vingtaine d'ingrédients dont c'est seulement que la terre qui les possède. Puis il faut que tous ces ingrédients-là soient placés exactement comme ils le sont présentement. Je vais vous en nommer quelques-uns, puis ce n'est pas un cours de scientifique ce matin, mais c'est le fun des fois avoir des petites notions là-dessus. Savez-vous que la présence de la Lune est très importante pour notre vie? Dans l'angle où ce qu'elle est, puis en tourne en orbite autour de la Terre, elle nous permet à la Terre de garder l'angle de 22 degrés par rapport au Soleil. Puis si ça ne serait pas le cas, on tournerait d'une manière informe, puis que là, il n'y aurait aucun climat qui serait possible, un climat vivable sur la planète. Ça prenait absolument une planète en orbite à distance qu'elle a, puis à l'endroit qu'elle a, puis qui tourne dans le sens qu'elle tourne, exactement comme que c'est. Savez-vous qu'il y a une autre planète à côté de la nôtre qui s'appelle la planète Jupiter, que d'après sa grosseur puis son champ magnétique qu'elle dégage, elle fait comme un champ gravitationnel. Ça veut dire qu'elle aspire toute la majorité de tous les astéroïdes puis les comètes qui se passent proches pour venir nous heurter, ils sont aspirés par la planète Jupiter. Ce qui fait que ça nous donne une sécurité sur notre planète de ne pas être bombardé à journée longue de toutes sortes d'astéroïdes. Il y en a des petits qui réussissent à passer, mais ils se désintègrent. Mais des grosses là, qui passent pour venir comme détruire la Terre, les scientifiques ont découvert qu'on était protégé par Jupiter. Savez-vous aussi que juste aux proportions chimiques sur la Terre, il paraît que la proportion de carbone puis d'oxygène est exactement à un niveau parfait pour stabiliser la vie sur la Terre. S'il y aurait eu plus d'oxygène ou moins de carbone, ou plus de carbone, moins d'oxygène, la vie aurait été impossible sur la Terre. Il fallait que ça soit exactement comme c'est dosé actuellement. Puis, en cause, on calcule la distance parfaite entre la Terre puis le Soleil, puis qu'elle tourne dans un orbite exact. La Terre tourne dans un orbite exact qui garde toujours le même cap autour du Soleil, à une distance parfaite pour qu'on puisse avoir une température qui est la température adéquate pour avoir de la vie sur la Terre. Si ça ne serait pas, si on aurait une couple de 1000 kilomètres plus loin sur un bord ou sur l'autre, soit qu'il ferait trop froid pour la vie ou trop chaud pour la vie. Puis savez-vous aussi que le Soleil est placé exactement dans le bon endroit dans tout le système solaire, dans toute l'univers, parce qu'il parle qu'il y a d'autres galaxies ou qu'il y a d'autres soleils. Chaque étoile, supposément, c'est d'autres soleils. Puis la nôtre est placée exactement à bonne distance par rapport aux autres pour que ça tourne dans un sens qui est le sens où on tourne présentement. Sans cela, on sera tout débalancé pour que les planètes seraient toutes attirées par d'autres choses, puis seraient toutes. Ça ne sera pas comme que c'est là aujourd'hui. Ça, c'est juste quelques-unes des choses qu'on découvre, que les scientifiques découvrent pour nous dire que ces points de base-là, juste ceux-là qu'on vient de nommer, on ne peut pas retrouver un ensemble exactement parfait comme que ça a été établi là, dans le système qu'on vit présentement. Fait que là, il y a plusieurs personnes quand même, malgré qu'ils ont réalisé qu'il y avait juste site qui pouvait avoir de la vie, ils ont donné toutes sortes de théories au niveau pourquoi qu'on est là. Là, ils se sont donné comme une théorie qui s'appelle la théorie de l'évolution, qui est juste une théorie. Ils ont dit, ben là, si on a tout est parfait pour créer la vie ici, ben là, on va trouver une raison scientifique pour pouvoir arriver à comprendre pourquoi qu'il y a eu un développement de la vie à partir de microbes microscopiques, monocellulaires, des microbes à une cellule. Il a fallu que ça devienne des microbes à deux cellules, puis que ça se forme avec une multiplication de changements dans les composantes des microbes pour arriver à former d'autres sortes d'espèces de cellules vivantes, puis qui pourraient arriver à faire d'autres avec des milliards d'années et des effets comme des comètes ou des choses qui a fait des gros cataclysmes, qui a fait des bouleversements. Fait qu'eux autres, ils disent ça dans leur théorie. Qu'il est arrivé des gros cataclysmes, des gros changements de température brusque, des gros. Ça a fait des coches d'évolution qui se sont faites à cause des cataclysmes. Pas juste à cause des milliards d'années, sinon, s'il n'y aurait pas eu ces effets-là, ça n'aurait pas abouti à une deuxième étape d'une bactérie à une cellule qui devient une bactérie à deuxième cellule. Ça se fait pas tout seul, mais ils disent que c'est passé des affaires. Qu'on est comme en réalité, dans leur théorie, un mélange chimique qui se produit par la chaleur, le froid, puis là, il y aurait un développement. Mais là, ça en viendrait à dire que la vie sur Terre qu'on vit actuellement est le fruit du hasard. À quelque part, on avait tous les bons ingrédients, la bonne température, les bons mix qui est arrivé. Puis que là, la bactérie qui a commencé là, au début de la création, qui était là sur une planète qui était déjà existante dans la création, sans leur dire qu'elle a été créée, Il y a eu un développement sur cette planète-là, puis que là, on aboutit par hasard qu'on se retrouve ici, dans cette vie, à l'intérieur d'un corps. Puis là, ils n'ont pas encore toutes les réponses pour ce qui va arriver après la mort, puis ainsi de suite, mais ils se donnent cette théorie-là. Mais il y a trop de hasard dans ça, il y a trop de, comment on pourrait dire, de coups de chance, selon leur théorie. C'est impossible que ça arrive comme ça aujourd'hui dans un monde si parfait, dans le sens où on regarde, on considère notre corps, comment est-ce que juste on est à l'intérieur, on peut bouger, on peut faire toutes sortes d'affaires, on peut réfléchir, on peut faire des choses. C'est impossible qu'on soit arrivé à l'état d'un humain juste par le fruit du hasard. S'arrêter que tous les animaux seraient développés en même temps, puis seraient tous arrivés à une autre espèce, dont on pourrait dire, non, mais il y a eu une multitude d'espèces différentes qui étaient formées à partir d'une seule bactérie monocellulaire. Puis, en tout cas, je ne veux pas commencer à établir toute la théorie, mais c'est juste pour vous donner une idée comment est-ce que la science ne peut pas donner une explication complète sur les choses. Elle ne fait qu'analyser un petit peu avec son raisonnement, mais elle ne comprend pas ni le début, ni la fin. Puis de même dans leur théorie, il manque des chaînons manquants. Pour arriver quand ils ont dit qu'il avait la forme d'un singe, qui est devenu comme un homme de Cro-Magnon, qui est devenu l'homme du Néandertal, puis il est devenu chaque espèce, l'homme d'un autre, puis l'homme d'un autre, qui serait comme des spécimens. Il manque des parties dans leur ossement, puis ils se sont donc créés eux-mêmes à partir d'une mâchoire, d'un singe. Ils ont fait tout un ossement. Puis là, il dit ça, c'est à l'autre chaînon qui est entre les deux étapes. Puis l'autre, il était complètement inventé. Puis supposément, en plus, qu'ils ont même plus dans le labo scientifique. C'était volé. Puis ils continuent à penser que c'est une théorie possible. Mais laissez-moi vous dire un autre point de vue. Ce que la Bible dit. La Bible a dit que c'est Dieu qui a créé toute chose. Dans Genèse 1:1, ça nous dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Avant qu'il crée ça, c'était le vide, le néant total. Parce que ce que les scientifiques ne pensent pas, c'est que même s'il y a une bactérie vivante sur une planète qui était là, qui a mis là la planète? Mais la Bible a dit que c'est Dieu au commencement qui a créé le ciel et la terre. Il n'y avait rien avant la création. Dieu a créé le monde invisible, où sont tous les anges, et il a créé le monde matériel qu'on voit aujourd'hui. Nous avons affaire à un Dieu extrêmement grand et puissant, puis qui a rien qui est semblable à lui dans toute la création. Il y a un verset qui nous dit, Dieu, y habiterait-il véritablement sur la terre? Ça nous dit, voici les cieux, puis les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Tout ce qu'on voit de la création, en parlant de la terre, le ciel et l'univers, ne sont pas assez grands pour contenir Dieu. Mais pour être encore plus précis, pour savoir c'est qui ça, ce Dieu-là, parce que si on regarde aujourd'hui dans les religions, il y en a des centaines de dieux. Mais c'est qui ça, ce Dieu-là qui a créé toute chose au début de la création? Si on se pose la question, admettons, je vous dis, mon père s'appelle Régent, mon père mesure 5 pieds 10, puis paye 192 livres, là je vous donne des caractéristiques de mon père. Puis un autre vient, puis lui dit, non, ton père, à toi, il mesure 6 pieds 4, puis il s'appelle pas Régent, il s'appelle Claude. Puis l'autre, il vient, puis il sort un autre nom, avec d'autres attributs ou d'autres caractéristiques. À quelque part, il y a plusieurs personnes qui disent connaître mon père, mais lequel dit vrai? À quelque part, il n'y a rien qu'un Régent Poulin, puis il y a de telles mesures. Mais c'est la même chose avec le Créateur. C'est beau qu'on se dise qu'il y a plusieurs dieux, puis que tous les dieux reviennent à la même chose, c'est faux. S'il y a un Dieu, il y en a rien qu'un Dieu qui a créé toute chose, puis il y a un seul nom dans un sens, puis il y a des attributs à qui ce qui lui appartient à lui seul. Il n'y a pas d'autre Dieu à part que le Dieu. C'est de celui-là que je veux vous parler. Je vais vous l'appeler Allah, Bouddha, Diane, des Astarté ou des anges ou des démons. Il y en a plusieurs manifestations, mais il n'y en a rien qu'un. Je pourrais être encore plus précis, c'est qui a créé toute chose. Dans Jean, au chapitre 1, le verset de 1 à 3, ça nous dit, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et la parole a été, au verset 14, vous retrouvez, la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, puis nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Ici, je vous parle de la manifestation visible et terrestre du Créateur. Puis comment est-ce qu'il s'appelle? Il s'appelle la parole. C'est qui ça, la parole qui a créé toute chose, qui est auprès du Père? La Bible nous dit au verset 14, « Et la parole a été faite chair, c'était Jésus. » La Bible nous dit que c'est Jésus qui est le Dieu créateur de toute chose. C'est lui qui a créé toute chose, puis rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Ce n'est pas d'autre Dieu que Jésus qui a créé. Colossiens 1,16 nous dit, « Car en lui, en Jésus, toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités, tout a été créé par lui et pour lui. » C'est à part de Jésus que tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été soigneusement placé là par Dieu, d'une manière parfaite. Tout ce qui en est de la création, là, si tout arrive à une dimension, à bonne distance, puis à bonne température, pour bons ingrédients, pour former la vie, tout est placé là d'une manière parfaite par Dieu. Il a pensé à tout ce qui était nécessaire pour qu'il y ait de la vie sur la terre. Bon, maintenant, à cette heure qu'on a une autre idée que la théorie de l'évolution, pensez-vous que Dieu, quand il a créé toute chose, que c'est par hasard que ça l'est arrivé? Il était en train de jouer avec ses pouvoirs, mais tout pousse, là, tout est apparu, puis là, il dit, « Qu'est-ce que j'ai fait là? » Y avait-il une raison, Dieu, quand il a créé ça? Ou le Seigneur est en train de faire des expériences scientifiques, puis à un moment donné, pouf, il y a eu une explosion, puis tout l'univers est apparu, puis là, il se demande encore quoi faire avec ça aujourd'hui, puis s'en débarrasser. Non. Dieu avait une idée. Il avait un plan. Quand il a décidé de créer toute chose, il y avait un but à toute cette création-là. La même chose si on se laissait d'abattre une maison, il y a un but. C'est parce que quoi qu'on veut vivre dedans, ou ce qu'on veut la louer ou la vendre à un autre, mais Dieu avait un but quand il a créé l'univers. On va vous l'expliquer. Son plan est de créer toute chose, puis de réunir toutes ses créatures par son Fils. Éphésiens 1. 9, 10, ça nous dit que Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté. C'est un mystère, la création, mais Dieu nous l'a fait connaître, ce mystère-là de sa volonté. Il dit, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. C'est un dessein, c'est un plan qu'il avait décidé en lui-même quand il a créé toute chose. Il voulait le mettre à exécution quand les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Ça, c'était son plan, son dessein, qu'il avait résolu en lui-même, selon sa volonté, qu'il avait décidé de le faire. C'est pas le fruit du hasard qu'on est ici. Dieu prévoyait d'avance la chute de l'homme. Il prévoyait la rébellion d'Adam et Ève, donc sa séparation, puis qui était pour vivre dans le péché, puis qui était pour être séparé de lui. Il prévoyait la méchanceté de l'homme, puis son penchant vers la désobéissance. Puis il savait que, d'avance tout ce qu'il a enduré de la part de ses créatures, mais il a décidé quand même de tout créer, parce qu'il avait un but de rassembler ses créatures en son Fils Jésus. Malgré tout, il voulait donner la grâce à ses créatures. La grâce d'être adopté dans sa famille. C'est fort. Dans Éphésiens 1, 4, 5, ça nous dit, « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et répréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le plaisir de sa volonté. Ça lui a fait plaisir, c'était dans son plan de tout créer, d'endurer tout ce qui s'est passé sur la terre contre lui, puis il était le Créateur. Puis Dieu, c'est pas juste une personne, comme on se dirait, un humain qui est là. La Bible nous dit que tout l'univers est pas assez grand pour contenir Dieu, que tout est créé en lui. Il a décidé quand même, dans son amour, à nous prédestiner à être des enfants d'adoption, qu'on puisse être adopté puis faire partie de sa famille, parce qu'il nous aimait. Merci Seigneur. Le Seigneur a déjà préparé son royaume éternel pour certaines personnes. Dans Matthieu 25, 34, il dit, « Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui a été préparé dès la fondation du monde. » Depuis le début de la fondation de notre univers terrestre, Dieu avait fait un royaume éternel où il y aura de ses créatures qui seraient invitées à faire partie de ceux qui y habiteraient éternellement. Alléluia, merci Seigneur. Jésus a le même cœur que son Père. C'est d'amener auprès de lui toutes les gens qui sont appelés par le Père. Dans Jean 17, 24, ça nous dit, « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Savez-vous que Dieu, le Créateur, il est en train d'organiser un super party pour son Fils. Il a préparé des noces incroyables. C'est plus que le mariage du siècle, c'est le mariage de la création. Un méga mariage, puis toute la création est invitée. Jean, dans l'Apocalypse, il y a une vision du futur, dans l'Apocalypse 19, les versets 7 à 9, ça nous dit, « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui la gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée, puis lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écrit, « Heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. » Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Dieu ne reviendra pas là-dessus de ce qui a été dit. Heureux ceux qui sont invités au festin de noces de l'agneau. Ce festin de noces était préparé depuis la fondation du monde. Dieu nous prédestinait dans son amour à faire partie de ceux qui vont se marier avec son époux. Dieu veut donner une épouse à son fils. C'est cela le but de la création. Matthieu 22, 1 à 3, ça nous dit, c'est Jésus qui parle. Jésus prenant la parole et leur parla de nouveau en parabole, il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. » Puis il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais c'est à cela qu'est semblable le royaume des cieux. C'est semblable un roi qui veut faire des noces pour son fils, puis envoyer ses serviteurs inviter ceux qui étaient invités aux noces. Apocalypse 21:9, il dit, « Voici, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Savez-vous que pour lui, il n'y a rien de plus important que ceux qui lui appartiennent? Pour Dieu. En Zacharie 2:8, ça dit, « Celui qui vous touche, il touche à la prunelle de son œil. » Savez-vous que les élus, ils bénéficient d'une garantie du pardon de leurs péchés? Dans Hébreux 10, 17, il dit, « Je me souviendrai plus de leur iniquité, ni de leurs péchés. » Dans Romains 8, 33, ça nous dit, « Qui accusera les élus de Dieu? » C'est Dieu qui justifie. Un jour, on va comparaître devant un tribunal. Toute créature va ressusciter, toute personne vivante sur cette terre, depuis le début de la création jusqu'à maintenant, puis jusqu'à celle qui va avoir jusqu'à la fin, vont tous ressusciter après leur mort. Ils vont tous comparaître devant Dieu. Puis il va y avoir des livres qui vont être ouverts, puis il y a les livres de vie, puis les gens vont être jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Mais qui va accuser les élus de Dieu? C'est Dieu qui les justifie. Le seul juge a déclaré juste ses élus, ceux qui vont être l'épouse de Jésus. La Bible dit qu'il est toujours prêt à exaucer ses élus. Luc 18, le verset 7-8, ça nous dit, « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. » Dieu y a un cœur penché continuellement, ses oreilles et ses yeux sont attentifs à ses élus. Parce que rien de plus précieux pour lui, c'était la raison d'être de la création, ses élus. Nous voyons dans la Bible même des avertissements mettant en garde les élus de ne pas se faire séduire et de s'éloigner. Dans Matthieu 24, 24, ça dit, « Car il s'élèvera de faux Christ et des faux prophètes, puis feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Mais on a des avertissements pour nous dire d'être en garde et de faire attention à ceux qui se présentent, parce qu'il y en a des faux dans la gang. Mais les vrais sont là, puis sont avertis, puis ils gardent ce que le Seigneur lui donne comme avertissement. La Bible parle d'un retour de Jésus sur cette terre, puis il va mettre un terme à la folie des hommes. Mais principalement, quand il va revenir à son retour, c'est parce qu'il a hâte de venir chercher ses élus. Jésus a parlé qu'il y aura des temps difficiles à la fin. Il va y avoir une grande tribulation, il va y avoir des persécutions, il va y avoir de la guerre, il va y avoir des cataclysmes, des grands cataclysmes sur la terre, où le soleil va changer de couleur, il y a même des étoiles qui vont tomber du ciel. Il y a des raz de marée incroyables, les gens vont mourir de peur à cause du bruit de la mer, puis des flots de la mer. Puis ça va être incroyable à la fin. Mais Jésus, quand il va revenir, c'est mettre un terme à ce que les humains sont en train de vivre, comme là, ils sont dans le temps des nations, mais lui va venir mettre le sien, son terme. Mais il a hâte de venir chercher ses élus. Ça nous dit, puis si le Seigneur n'avait abrégé ses jours, personne ne serait sauvé, mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Jésus va revenir pour nous prendre avec lui, Matthieu 24, 31, puis il enverra ses anges avec la trompette retentissante, puis rassembleront ses élus des 80, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Quand il va revenir, Jésus, c'est pour venir chercher ceux qui lui appartiennent. Là, vous devez vous commencer à vous demander, « Ouais, mais c'est qui ça, ces élus? Je veux les voir, je veux lui parler. » Mais la Bible nous en donne une explication, c'est qui ça, ces élus. Ce qu'on appelle aujourd'hui Église, c'est un regroupement d'élus. Dans 1 Pierre 5, 13, ça nous dit, « L'Église des élus qui est à Babylone vous salue, ainsi que Marc, mon fils. » Le mot « Église » veut dire « assemblée choisie ». C'est ça que ça veut dire, le mot « Église ». Le mot « Église », ça ne veut pas dire « la bâtisse ». Ça veut dire, ceux qui en dedans, c'est une assemblée de choisis. C'est les élus de Dieu. L'Église est composée d'élus, sauf, c'est pas tous ceux qui fréquentent l'Église qui sont des élus. Comme j'ai déjà entendu David Wilkerson prêcher, il dit, c'est pas à cause que tu vas d'une étable que ça fait de toi un cheval. Ben, tu peux rentrer dans l'Église, être assis là de semaine en semaine, puis même pas encore faire partie des élus. Pourtant, que ça dit que l'Église, c'est l'assemblée choisie. Tu peux rentrer dans l'Église sans en faire partie. Ben, il est important de savoir c'est qui, c'est quoi, et c'est comment est-ce qu'on fait pour devenir élu, afin d'être sûr que vous allez être enlevé avec le Seigneur. Sinon, il y a un autre endroit que, quand je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait un groupe, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume, ben, je ne vous ai pas dit qu'il y avait un autre groupe à ceux qui ne faisaient pas partie de ceux qui héritaient du royaume, puis que Jésus leur a dit, « Allez maudits dans le feu éternel qui était préparé pour le diable et pour ses anges. » Il y a un autre endroit de perdition que la Bible appelle l'étang ardent de feu et de soufre. Ce que l'Église, dans le mot latin, appelle l'enfer. Mais ce n'est pas réellement le mot l'enfer. Jésus dit l'étang de feu. C'est un lac de feu, où ce que le feu ne s'éteint point, où ce que les vers ne meurent point. Mais il est important de savoir c'est qui les élus et comment est-ce qu'on fait pour devenir un élu. Sinon, vous ne rentrez pas. Les élus sont des gens qui ont été appelés par l'annonce de l'Évangile. Ils ont entendu parler de l'Évangile. Ils ont entendu qu'il fallait qu'ils se consacrent à Dieu Puis ils ont fini par accepter cet appel-là, puis se sont engagés à le suivre et à le servir. Ils ont décidé de changer de royaume. Avant, ils étaient sur le chemin de la perdition, ils étaient dans le royaume des ténèbres, puis ils ont décidé de changer de camp. Ils ont un appel, puis par l'Évangile, par la prédication de la Bible, par l'annonce du royaume de Dieu, puis oui, je veux rentrer dans ce royaume-là, je veux devenir un serviteur, je veux devenir un de ses enfants, je veux devenir un de ses élus, à ce nouveau Seigneur-là, qui va être le Seigneur de ma vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le Créateur de toutes choses, je me donne à lui, je m'engage à le suivre et à le servir jusqu'à la fin. Ça, c'est un véritable élu. 1 Pierre 1, les versets 1 et 2, nous dit exactement ce que je viens de vous dire là. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, dans la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. On va vous l'expliquer parce que c'est un verset qui semble compliqué. Mais les gens, Pierre est en train d'écrire une lettre à des gens qui étaient dans certaines églises, puis il nomme les endroits des églises, puis il dit, je vous parle à vous qui vous êtes élus selon la préscience de Dieu. Dieu avait décidé ça dans sa préscience à ce que vous puissiez un jour devenir élus. Mais vous êtes élus par quoi? Par la sanctification de l'Esprit, afin de devenir obéissants. Vous n'êtes pas juste élus à cause que vous avez entendu parler de Jésus. Vous n'êtes pas juste élus parce que vous avez décidé « j'accepte ». Vous êtes devenu élu parce que, à quelque part, vous avez voulu recevoir le Saint-Esprit, puis le Saint-Esprit va vous conduire dans le chemin de la sanctification afin que vous deveniez obéissants. Vous êtes sauvés par la sanctification de l'Esprit pour devenir obéissants. Si en commençant cette nouvelle offre qui vous est présentée, vous n'avez pas le désir de devenir obéissant, mais vous ne recevrez pas le Saint-Esprit pour vous rendre obéissant, donc ne faites pas partie de la famille de Dieu. Il est important, afin de faire partie de la famille de Dieu, que vous ayez eu une réelle repentance de vos péchés, que vous réalisiez que vous étiez pécheur, que vous regrettiez cette vie-là, que vous étiez écœuré de la vie, puis que vous vouliez changer de vie. Puis là, Jésus vous offre une nouvelle vie en son Fils, puis il vous offre de recommencer à zéro, il vous offre son Saint-Esprit, qui va vous conduire dans toute la vérité, puis il va vous rendre à l'image de Dieu. Il va vous rendre obéissant à l'Évangile. Vous êtes sauvés par la sanctification que l'Esprit va vous amener. Mais vous le recevez à un moment donné. Vous êtes sauvés à partir du moment où vous le recevez. Mais vous le recevez seulement quand vous êtes prêts à vouloir changer de vie. Si vous ne voulez pas changer de vie, vous ne l'avez pas encore su. C'est pour ça que je disais tantôt, il y en a qui sont assis ici, ça se peut qu'ils ne sont pas encore décidés à obéir au Seigneur, décidés à changer de vie. Vous pouvez être assis dans l'Église, entendre les messages et pas obéir. Vous n'êtes pas rendu d'une attitude d'obéissance, donc ne faites pas partie encore des élus de Dieu. Puis il est important de réaliser si je me sens, est-ce que je me suis vraiment engagé à suivre Jésus? Est-ce que mon cœur est vraiment de devenir obéissant? Si oui, vous êtes un élu de Dieu. Vous êtes ceux à qui appartiennent les plus grandes et les plus précieuses promesses que Dieu a faites depuis le début de sa création, avant la création, dans sa préscience. Il a décidé d'offrir ces promesses-là à ceux qui seraient prêts à obéir. Il y a-t-il un amen à cela? Gloire à Dieu. Dans sa préscience, Dieu avait planifié que certaines personnes deviennent obéissantes par le Saint-Esprit, puis participeraient à être lavées de leurs péchés par le sang de Jésus. Quand tu décides de devenir obéissant, le sang de Jésus, son Fils, te purifie de tout péché. Il te lave de tous tes péchés. Il oublie tous tes péchés. Il s'en souvient plus, ils ont été jetés dans la mer de l'oubli. Maintenant, tu peux marcher avec le Seigneur, avec une assurance que tu fais partie des élus de Dieu. C'est Jésus qui est le seul moyen pour aller au ciel. C'est lui qui est la victime expiatoire. C'est lui qui a payé pour nos péchés, qui a accepté de mourir pour nos péchés. Ça prenait quelqu'un qui meurt, soit nous autres qu'on meurt pour nos péchés, mais lui a décidé de venir pour mourir pour nos péchés. En versant son sang, il donnait l'accès à bien des gens à rentrer dans la présence de Dieu. Merci Seigneur. Ces élus sont des gens qui recherchent un très haut niveau de moralité dans leur conduite dans ce monde, en se basant sur la parole de Dieu, sur les enseignements de la parole de Dieu. Ces élus vont un cœur pour devenir obéissant, mais à vouloir devenir obéissant en étant conforme à ce que Dieu nous a dit dans la parole de Dieu. Puis ça, c'est le Saint-Esprit qui va vous conduire dans ce cheminement-là, qui va vous montrer les autres points à changer dans votre vie, les choses à abandonner. Et le Saint-Esprit va vous conduire dans cette consécration, parce que le mot sanctification veut dire consécration. Plus que tu obéis au Seigneur, plus tu te consacres à lui, c'est ça qui est la sanctification. Tu deviens de plus en plus consacré au Seigneur. C'est ça que le Saint-Esprit veut nous amener. Il amène ses élus dans cette direction-là. Nous sommes encouragés par Paul de tendre dans cette direction-là. Dans Colossiens 3:12, ça nous dit, « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. » Ça fait partie des attributs d'un élu de Dieu. Là, il nous exhorte à dire, soyez miséricordieux, soyez plein de bonté, soyez plein d'humilité, soyez plein de douceur, soyez patient. Ça fait partie du caractère de Jésus qui va ressortir dans la vie des élus. Puis en attendant le retour puis les noces, savez-vous c'est quoi la mission principale des élus sur terre? Pas en attendant le retour des noces, en attendant le retour du Seigneur pour venir nous enlever et les noces par après. Notre mission principale, en 1 Pierre 2:9, ça nous dit, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » On est élu de Dieu maintenant et notre travail, c'est afin qu'on annonce les vertus. C'est afin qu'on parle de notre Dieu, qu'on parle de sa parole, qu'on parle de son chemin, qu'on parle de sa grandeur, de sa puissance, de ses bontés, de sa miséricorde, qu'on parle de lui à ceux qui ne le connaissent pas. On parle souvent d'évangélisation, mais pourquoi j'irais évangéliser? C'est simple, parce que tu es un élu de Dieu, puis tu es élu afin que tu annonces. Merci Seigneur, on rentre de plus en plus dans le but réel de la vie d'un élu de Dieu. Mais savez-vous qu'il y a maintenant peu de personnes qui répondent à l'appel de faire partie des élus de Dieu? La Bible dans Matthieu 22, 14, ça dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Comment ça se fait qu'il y a beaucoup d'appelés puis peu d'élus? Dieu avait à cœur d'appeler beaucoup de personnes, puis il y en a peu qui sont élus. Pourtant, c'est le désir de Dieu que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ça revient un petit peu, pas en contradiction, mais un petit peu, faut réfléchir là-dessus. Dieu, on va dire, Dieu, au début de la création, il savait toutes choses avant que ça arrive, parce que c'est ça qu'il appelle sa préscience. Il connaissait les choses avant qu'ils se fassent. Il savait que tout le monde tomberait dans le péché. Il savait qu'il enverrait son fils, puis il a décidé ça selon sa volonté, selon son bon plaisir, dans son amour qu'il a décidé de faire cette création-là. Il savait d'avance qui accepterait et qui accepterait pas. Dans un sens, Dieu, dans son livre à lui, tous les jours qui nous étaient destinés à chacun de vous, tous les jours qui sont devant vous, Dieu les voyait d'avance avant le début de la création. Comment ça se fait s'il voyait les jours d'avance de tout le monde, puis qu'il veut que tout le monde soit sauvé? Comment ça se fait qu'il y en a beaucoup qui sont appelés, puis il y en a peu qui sont élus? Est-ce que ça voudra dire que Dieu, même s'il voyait toutes choses d'avance, c'est pas lui qui a fait que tu acceptes ou que tu acceptes pas? Sinon, il aurait fait, s'il veut que tout le monde soit sauvé, il aurait fait, tout le monde va l'être. C'est parce que Dieu, il reste encore le choix, la liberté aux humains de répondre à son appel, de décider d'abandonner toute rébellion, puis d'obéir volontairement de leur décision. C'est sûr que Dieu, il va tout faire que ces gens-là croient. Il a donné son fils, il a donné sa parole, il a envoyé ses serviteurs à l'annoncer pour appeler les gens à venir aux noces. Il a envoyé les gens à lui expliquer les affaires. Puis son Saint-Esprit travaille dans le cœur de ces gens-là pour essayer de les convaincre puis les amener à une repentance. Parce que c'est la job de l'Esprit d'amener les gens à repentance. Puis Dieu va même nous guider vers ceux qu'il sait que ça se pourrait que ces gens-là aient plus de chance. Parce qu'il, puis il va diriger la situation, mais la personne est encore libre de dire oui ou non. Puis là, maintenant, je fais appel avec le dernier passage qu'on va voir. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on a dit oui ou non à son appel d'être un élu? Matthieu 22, le verset de 1 à 14. Ça nous parle du verset que j'ai lu tout à l'heure. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole, puis leur dit, « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. » Et là, je vais vous lire la suite. « Mais ils ne voulurent pas venir. » C'est pas que Dieu voulait pas qu'ils soient là. Ces gens-là étaient les invités. Ils devaient tout y être. Mais ils n'ont pas voulu. Là, ils envoyaient d'autres serviteurs en disant, « Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs, mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. » Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-là à son champ, l'autre à son trafic. Les autres sont saisis de ses serviteurs, puis ils ont outragé, puis ils ont tué. Là, le roi fut irrité, puis envoya ses troupes, puis fait périr ses meurtriers, puis brûla leur ville. Un jugement du Créateur, parce qu'ils ont refusé cet appel-là. Puis il y en a eu des nations qui ont reçu des jugements du Créateur depuis les appels, l'appel du Seigneur, tout ce que le Seigneur fait comme appel. Il y a eu des nations qui ont été évangélisées, puis il y en a qui ont refusé l'appel, puis il y a des jugements du Seigneur qui ont tombé sur cela. Parce que Dieu, que vous le voulez ou non, a droit à l'adoration, parce qu'il est le Créateur. Mon frère, tout à l'heure, qu'est-ce qu'il disait? C'est vrai que les nations, ils ont décidé de servir un autre maître, puis de ce fait-là, ils appartiennent, toute la gloire de ce royaume-là appartient à Satan. Mais au départ, la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Par naturel, là, ces gens-là auraient dû voir la grandeur de la création de Dieu et décider eux-mêmes de se tourner vers ce Dieu-là. Mais ils ont refusé cet appel-là. Puis là, ils reçoivent des jugements de Dieu, puis la colère de Dieu plane sur ces gens-là. Est en cours dessus eux. Bien que Dieu les aime, Dieu voudrait faire autre chose que de les déverser sa colère sur eux. Là, Dieu, il n'a pas arrêté là, il continue, parce que ces serviteurs-là, les premiers qui étaient appelés, c'était les Juifs. Là, Dieu dit, allez dans les carrefours, puis appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ça, c'est là que l'appel était répandu à toutes les nations. C'est nous autres, ça. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, puis rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent méchants et bons, puis la salle de noces fut pleine de convives. Alléluia, parce qu'il y a des gens qui ont été travailler, aller inviter tous ces gens-là, aller leur expliquer le pourquoi, puis les attirer à venir, puis la salle des noces a été comblée. De quel groupe sommes-nous maintenant? Si je vous demande, j'ai dit une réponse tout à l'heure, mais là je vous pose la question. Ah, vous faites le choix d'accepter la Seigneurie de Jésus dans votre vie. Ah, vous faites le choix de dire, oui, je change de vie, je veux obéir au Seigneur, puis je veux que le Saint-Esprit me conduise à devenir obéissant, puis qu'il me conduise à devenir de plus en plus consacré à son service. Que je devienne un de ses serviteurs qui va travailler pour aller répandre l'invitation à tous, à tous ceux qui nous entourent, afin que la salle de noces soit pleine. Est-ce qu'on a répondu à cet appel-là? Moi, je crois que la plupart d'entre nous l'ont fait. Mais est-ce qu'il y en a qui ne l'ont pas accepté? Ou qu'ils viennent dans l'Église, puis pensent de rentrer par un autre moyen? Parce que si on regarde, on continue cette histoire-là. Là, le roi y entra pour voir ce qui était à table, puis aperçut-là un homme qui n'a pas revêtu d'habit de noces. Puis il lui dit, « Mon enfant, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? » Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit à ses serviteurs, « Huiliez les mains et les pieds, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y aura beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Savez-vous, on ne peut pas penser d'entrer dans cette noce-là sans avoir été revêtu d'un habit de noces. Puis savez-vous c'est quoi cet habit de noces-là? Ça représente l'œuvre de Jésus, son sang versé sur la croix, que vous avez besoin d'être revêtu afin d'être purifié de vos péchés. Puis ça va vous donner une libre entrée dans son sanctuaire. Ça va vous donner une libre entrée à rentrer dans son royaume. Sans passer par Jésus, Vous ne pouvez pas entrer dans la noce. Puis si à quelque part, vous n'avez pas fait encore ce choix, pendant que les musiciens vont venir en avant, et se préparer à nous chanter un chant qui est un chant comme pour vous laisser une chance encore, un temps de réflexion. Pensez pas à côté de l'invitation qu'un de ses serviteurs vous fait présentement, de vous décider à rentrer dans le festin des noces, qui vous dit, soyez revêtus du vêtement de noces qui est le sang de Jésus, essayez pas de rentrer autrement, puis engagez-vous à vouloir devenir un serviteur de Jésus-Christ, quelqu'un qui va travailler à aller chercher les autres, à être consacré pour son service. Je fais cet appel ce matin. Avez-vous fait le choix? Partez pas d'ici sans avoir fait ce choix. Toute votre vie va avoir une conséquence du choix que vous allez prendre. Si vous demeurez dans votre chemin, dans le chemin qui de zigzag, venir s'assire à l'église, retourner dans le monde, vivre dans le péché, revenir s'assire dans l'église, retourner dans le monde, revenir dans le péché, ou l'autre choix qui dit là, c'est assez, cette vie pourrie-là. Je suis en train de m'en aller à l'enfer à cause de ça. Là, je veux changer de vie. Je veux avoir une vie qui est conforme à ce que Dieu dit dans sa parole. Je vais être guidé par son Saint-Esprit. Là, je m'engage ce matin. Je dis, Seigneur, là, je t'accepte comme mon Seigneur. Puis maintenant, tu deviens mon Sauveur. Je vais faire une prière avec vous. Faites cette prière-là. Seigneur Jésus, je comprends maintenant le but de la création. Je comprends maintenant le but du pourquoi je suis ici présentement. C'est que tu m'appelles à devenir ton serviteur. Je demande pardon, Seigneur, pour mes péchés, mes désobéissances, ma rébellion. Je te demande, Seigneur, maintenant, de me pardonner de tous mes péchés parce que je le crois, que tu es mort sur la croix, tu as versé ton sang pour me purifier de tous mes péchés. Je t'accepte comme mon Seigneur, le Seigneur de ma vie. Je veux devenir obéissant à ta parole. Je te demande ton Saint-Esprit. Prends toute la place, Seigneur. Et viens me conduire dans cette obéissance. Merci, Seigneur, de ce que tu fais maintenant dans ma vie. Tu as pardonné mes péchés. Tu as inscrit mon nom dans ton livre. Je veux maintenant le publier. Ta grâce que tu as eue pour moi, de me pardonner et de m'inviter aux noces pour me marier avec ton fils. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Si vous avez fait cette prière dans votre cœur, dites-le à quelqu'un. Et si vous voulez, venez, on va prier avec vous, afin que la grâce soit encore multipliée dans votre vie, que le Seigneur vous guide dans toutes ses voies. Alléluia.